Chers frères et sœurs et chers amis, nous sommes à l'étude numéro 43, toujours sur le thème de la prière. Il y en a encore pour longtemps. Le thème d'aujourd'hui sera connaître Dieu, très important de connaître Dieu. La Bible dit dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoutera, et que si nous savons qu'il nous écoute, nous savons également que nous avons d'ores et déjà obtenu ce que nous demandons. Et c'est pourquoi il est important de connaître la volonté de Dieu lorsque nous prions, parce que la prière nous permet de connaître Dieu. En fait, la vie éternelle est elle-même liée à la connaissance de Dieu, car Jésus-Christ a dit « Et telle est l'éternelle vie, qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Saint Jean 17, verset 3. La vie éternelle n'est pas une affaire de doctrine, de croyance ou de membre de l'Église. La vie éternelle, dans son essence, c'est connaître le Dieu éternel et son Fils Jésus-Christ. Si nous ne le connaissons pas, nous n'aurons pas la vie éternelle, quelle que soit l'intensité avec laquelle nous acceptons la doctrine. Il y a quatre niveaux suivant lesquels on peut vraiment connaître quelqu'un ou Dieu. Voyons ces quatre solutions. Il y a la connaissance à propos de Dieu, premièrement. Donc, on peut avoir entendu parler de lui, on peut en savoir un peu sur lui, on sait qu'il existe, mais au fond, on ne le connaît vraiment pas. C'est le niveau le plus courant de connaissance de Dieu pour la plupart des gens. C'est celui des non-chrétiens, si vous voulez, les athées et les libres penseurs. Deuxièmement, il y a la connaissance de Dieu comme une information. Beaucoup de personnes vont à l'église à l'occasion d'événements particuliers, Noël, Pâques, pour un mariage ou pour un décès, et ainsi ils récoltent quelques informations à propos de Dieu. Ils connaissent un peu la Bible, ainsi que les aspects physiques et historiques de la vie de Christ. Ils détiennent quelques informations, mais ne le connaissent pas véritablement. Troisièmement, il y a la connaissance de Dieu comme un ami. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Les véritables chrétiens considèrent le Seigneur comme un ami. Ils l'ont quelquefois expérimenté dans leur vie et peuvent véritablement chanter et penser « Jésus est un ami merveilleux ». Mais même s'il est un ami, ils ignorent beaucoup de choses s'ils n'ont pas la sensation que Dieu partage certaines choses avec eux. À l'image des enfants d'Israël, ils considèrent les actions extérieures de Dieu, mais ne connaissent pas vraiment ses voies comme Moïse les a connues, selon le psaume 103, verset 7. Et quatrièmement, il y a la connaissance intime de Dieu. Dieu espère une relation intime, personnelle, avec chacun de nous, dans laquelle il peut partager certaines choses avec nous et vice-versa, tout comme un mari et sa femme partagent des choses entre eux, comme nous pouvons le faire avec ceux que nous connaissons parfaitement et en qui nous avons une confiance absolue. Ces quatre niveaux trouvent leur illustration dans la vie de Christ. Les non-croyants avaient simplement entendu parler de Jésus-Christ, plus ou moins. Ils avaient bien entendu et vu certaines choses qu'ils avaient dites et faites, mais ils ne l'ont jamais vraiment compris. D'autre part, ses disciples étaient bel et bien informés de lui, et ils le connaissaient beaucoup mieux. Cependant, voyez-vous, Jésus-Christ a choisi parmi les 12 quelques hommes qui avaient vraiment de l'amitié pour lui et le connaissaient mieux que les autres. Donc, Jésus-Christ a choisi l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean, qui étaient particulièrement intimes avec lui. Ils se sont également illustrés en référence au temple. Entendre parler de Dieu revient à se tenir sur le parvis extérieur, c'est-à-dire celui des non-croyants. Car être informé de Dieu revient à se tenir sur le parvis intérieur. Oui, c'est connaître Jésus-Christ en tant qu'ami, et cela revient à la situation du prêtre qui est dans le lieu saint. Et connaître Jésus-Christ intimement revient donc à la citation du grand prêtre pénétrant dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Chers amis, quel est mon niveau et quel est le vôtre de la connaissance de Dieu? Des Grecs se sont avancés vers Philippe en disant: nous voudrions voir Jésus-Christ. Saint Jean chapitre 12, verset 21. Hébreux chapitre 2, verset 9 nous dit: Jésus-Christ, nous le voyons. Espérez-vous seulement voir Christ ou le connaître plus intimement? Pouvez-vous vraiment dire, comme la biche soupire après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42. Il est dit que les premiers juifs étaient dans l'étonnement, remarquant l'assurance de l'apôtre Pierre et de Jean et comprenant que c'était des illettrés et même des gens simples. Mais, là il y a un mais ils les connaissaient pour avoir été vraiment avec Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Donc, le secret du succès de ses premiers disciples résidait dans le fait qu'ils avaient été avec Christ et qu'ils le connaissaient intimement. Je répète cela, c'est qu'ils le connaissaient intimement. Dans les 3 premiers versets de la première épître de Jean, on trouve ces mots: nous avons entendu, nous avons vu, nous avons contemplé et nos mains ont palpé Jésus-Christ, car il s'est manifesté et nous avons vu et entendu l'apôtre Jean qui a insisté ainsi sur le fait qu'il ne parle pas, par exemple, d'un personnage imaginaire, d'une vague personnalité historique, ni d'un concept doctrinal, mais bel et bien de quelqu'un qui a connu de manière très intime et personnelle ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Donc, en qualité de chrétien, nous avons besoin, chers amis, de vraiment connaître Dieu. En qualité de témoin, nous avons également besoin de connaître Dieu. En qualité d'intercesseur, nous avons vraiment besoin de connaître Dieu. La prière est moins une technique à apprendre qu'un développement de la relation avec Christ. Au fur et à mesure que nous connaîtrons mieux Dieu, nous connaîtrons mieux également sa volonté. Connaissant mieux sa volonté, nous saurons mieux comment prier. Daniel au chapitre 11, verset 32 nous dit « Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu tiendra ferme et agira. » Il n'est pas étonnant que l'unique désir de l'apôtre Paul ait été de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Philippiens chapitre 3, verset 10. Il est donc intéressant d'étudier la première épître de Jean, car il utilise, écoutez bien, 38 fois le verbe « connaître ». Et ceci tout au long des 5 chapitres, souvent en référence à la connaissance de Dieu. Par exemple, à quel signe voit-on qu'une personne connaît ou non Dieu ? Vous l'avez bien compris, connaître ou non Dieu, c'est donc important. Et là, vous pouvez noter la première épître de Jean, chapitre 2, versets 3 et 6, ainsi que le chapitre 4, versets 2 à 3, sans compter encore le verset 6 à 8. Si donc, chers amis, nous ne sommes pas efficaces dans nos vies chrétiennes de prière, et dans notre témoignage, et sans compter notre intercession, eh bien, c'est qu'il nous est indispensable de connaître beaucoup mieux Dieu, pas seulement d'entendre parler de lui, mais de le connaître en personne. Le but de tout chrétien doit être de connaître Dieu et de le faire connaître autour de lui, autour de moi. Mais avant tout, nous devons le connaître personnellement. La personnalité est différente du caractère. Voyez-vous, la personnalité se reflète dans ce que dit et fait une personne. Le caractère, c'est ce que la personne est vraiment. Il est facile d'observer la personnalité de quelqu'un par son comportement et ses paroles extérieures. Néanmoins, cela ne constitue qu'une partie infime de son caractère. Voyez par exemple 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Quelqu'un peut avoir une forte personnalité mais un caractère faible et vice versa. La faiblesse ou la force peuvent aussi se retrouver sous les deux aspects. Ce que nous voyons ne constitue qu'une petite partie de son caractère révélé au travers de sa personnalité. Il faut donc connaître le caractère d'une personne pour le connaître vraiment. La plupart des gens ne connaissent le caractère que de 2 ou 3 personnes avec lesquelles elles sont vraiment intimes, alors qu'il nous est facile de remarquer la personnalité de nombreuses personnes. Si nous voulons vraiment connaître Dieu, eh bien, nous devons connaître son caractère. Il a révélé ses voies, il a révélé son caractère à Moïse, et ceci au fil, on peut dire, des années d'Israël, par exemple, et tous ses exploits, souvenez-vous. Donc, nous pouvons tous voir les actions de Dieu, mais connaissons-nous vraiment, chers amis, les voies de Dieu? Lorsque l'on parvient à connaître Dieu dans ce sens, eh bien cela transforme nos vies, notre prière, notre culte, notre engagement et notre sainteté personnelle. Ils sont donc là, c'est toutes ces choses en quelque sorte comme bouleversées. Oui, beaucoup de nos erreurs, croyez-moi, sont dues à notre manque de connaissance de Dieu. Notre état de péché, notre désobéissance, notre rébellion, notre manque de foi, etc., sont le résultat d'une méconnaissance de Dieu. La connaissance de la loyauté de Dieu nous mène à la foi. Ça change beaucoup de choses. La connaissance de la sagesse et de la justice de Dieu, elle élimine nos interrogations et nos ressentiments. La connaissance de sa sainteté nous aide à abhorrer le péché. Je répète, la connaissance de sa sainteté nous aide à abhorrer le péché, à éloigner, à faire face au péché. Nous cherchons si souvent une directive. Nous cherchons des dons, des réponses à nos prières, alors que nous ferions beaucoup mieux de chercher le Dieu qui nous guide, le Dieu qui donne et exauce les prières. Que devons-nous rechercher? C'est le donateur. C'est surtout ça. Devons-nous rechercher que ses dons? Non. D'abord, le donateur de ses dons. La réponse est évidente. Le manque de compréhension du caractère de Dieu, qui il est à la base de notre manque de maturité spirituelle, que nous soyons des chrétiens nouvellement convertis ou matures. Chers amis, comment parvenir à connaître Dieu? Il existe plusieurs chemins pour connaître Dieu ou voir Jésus-Christ et passer du temps avec lui. Premièrement, par la prière. La véritable prière est une communication divine, une discussion avec Dieu, un dialogue où lui parler et l'écouter. La véritable prière collabore intimement, personnellement, profondément avec Dieu. Commencez donc à rechercher Dieu, et cela vous prendra du temps et demandera des efforts, d'accord, mais ce sera tellement générateur, oui, générateur de bien-être. Donc passer du temps en prière ne doit pas être ardu lorsque l'on pense que l'on partage tout avec celui qui nous aime et prend soin de nous, oui, notre Père Céleste. Deuxièmement, par la révélation de l'Esprit Saint. Lisez la prière de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse dans Éphésiens chapitre 1 verset 16 à 23 et remarquez les paroles du verset 17. Là il est dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je répète, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Lorsque vous méditez sur le Seigneur, lorsque vous pratiquez l'adoration et la louange, priez et croyez que l'Esprit Saint vous révélera le Seigneur. Troisièmement, pour la gloire, pour la parole de Dieu. Oui, comment connaître Dieu? C'est par la parole de Dieu. Voyez-vous, la voie principale où Dieu se dévoile, c'est évidemment la Bible. Avant de la lire, demandez à Dieu de vous parler et de se révéler par elle. Ne vous contentez pas seulement de lire la Bible de temps en temps. Ne cherchez pas seulement à apprendre la Bible ou à y trouver des directives, mais cherchez le Dieu qui en a inspiré la rédaction. La parole de Dieu, elle est conçue pour nous amener à Christ, selon Saint Jean chapitre 5 verset 39. Étudiez le caractère de Dieu révélé dans la Bible. Plus vous lisez à propos du Seigneur et de ce qu'il a dit, plus vous êtes à son image et mieux vous allez le connaître. Étudiez donc la vie, l'enseignement et le caractère de Jésus-Christ tels qu'ils sont exposés dans la Bible. Lisez tout cela et laissez ensuite son Esprit Saint carrément transformer votre vie et la façonner comme celle de Christ. Quatrièmement, par nos expériences, nous apprenons à connaître Dieu au travers de ses accords avec nous, dans la vie courante. Louons Dieu pour chaque leçon qu'il nous donne, pour chaque expérience personnelle qu'il nous fait vivre. Laissons-le purifier notre foi. Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9. Également, toujours la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14. Donc, nous parvenons à connaître le Seigneur lorsque nous voyons sa nature s'exprimer dans la vie des saints et dans leur attitude. Saint Matthieu 5, verset 16. Et cinquièmement, par l'amour et par l'obéissance. En effet, en obéissant aux ordres de Dieu, en aimant Dieu et en nous aimant les uns les autres, Dieu a promis de se révéler à nous. Saint Jean chapitre 14 verset 15 à 21, ainsi que la première épître de Saint Jean chapitre 1 verset 2 à 3. On pourrait encore ajouter le chapitre 4 verset 7 à 12, toujours de la première épître de Saint Jean. Donc, demandons d'abord Jésus-Christ dans notre vie. Ça, c'est en tout premier lieu. Et puis, laissons-le se révéler à nous. Cela prendra du temps, cela demandera des efforts et de la détermination. Cela exigera que notre vie change. C'est ce que l'apôtre Paul appelait la valeur suréminente de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, afin de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en me rendant conforme à sa mort. Éphésiens chapitre 3, versets 8 et 10. Le résultat, chers amis, en sera comme dans Daniel chapitre 11, verset 32, où il est dit « Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu tiendra ferme et il agira. Ce peuple tiendra fermement à Dieu, se tiendra tout près de Dieu et aussi, en plus, il agira. » Donc, chers amis, quel est le caractère de Dieu? Une bonne question. À l'aide d'un index, relevez certains des aspects suivants du caractère de Dieu et étudiez tout cela dans les Saintes Écritures. Par exemple, Dieu nous dit qu'il est fidèle, saint, miséricordieux et tendre. Il est aussi peu rancunier. Par contre, il est jaloux. Il est patient et il est véritable. Dieu est amical, juste, puissant et digne de confiance. Dieu est glorieux, gentil, pur et compréhensif. Dieu est bon, indulgent, équitable et infaillible. Dieu est gracieux, aimant, constant et sage. Dieu est grand, majestueux, parfait et plein de fureur. Il peut en effet être plein de fureur. Il peut nous aimer, mais il peut aussi être fâché. Voyez-vous, dans la vie d'un chrétien, le danger existe de passer d'une extrême à l'autre. C'est une vérité dans de nombreux domaines, y compris dans celui du péché et de la confession. D'une part, certains chrétiens sont lourdement condamnables, alors que d'autres pensent qu'il suffit simplement de dire « I am sorry », »,« je suis désolé ». La confession et le pardon sont très importants, non seulement pour eux, mais aussi en ce qui concerne la prière. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il va nous écouter et nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. 1er épître de Jean chapitre 5 verset 14. Cependant, le psaume 66 verset 18 nous dit « Si j'avais eu des choses mauvaises, donc du mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté et par conséquent, je n'aurais pas été exaucé. » En d'autres termes, le péché non confessé et non repenti est un obstacle à la réponse de Dieu et à nos prières. Notez aussi le proverbe chapitre 28 versets 9 et 13. Dieu n'entendra pas la prière de l'injuste et c'est une des raisons pour laquelle nous avons parfois l'impression que nos prières ne vont pas au-delà du plafond. Le plafond, c'est le péché. Si nous voulons que Dieu écoute et réponde à nos prières, il ne doit y avoir aucun péché non pardonné dans nos vies. La prière du juste a beaucoup de force quand elle est active. Jacques 5, verset 16. Chers amis, les quatre facteurs du pardon sont les suivants. Premièrement, le repentir. Se repentir signifie se détourner du péché et de nous diriger vers Dieu et vers sa voie. La tristesse, selon Dieu, produit en effet un repentir salutaire qu'on ne regrettera jamais. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9. Le véritable repentir se remarque par un changement dans le mode de vie et dans sa démarche vers la lumière. Saint Matthieu chapitre 3 verset 1 à 12. Jean-Baptiste, Jésus-Christ, les disciples, absolument tous, ont prêché le repentir. Saint Matthieu chapitre 3 verset 1 à 12, ainsi que Actes chapitre 2 verset 38. Deuxièmement, nous avons la confession. Le repentir ne suffit pas. Nous devons confesser nos péchés à Dieu. Si nous confessons nos péchés, eh bien Dieu est fidèle et juste, et il nous remettra les péchés et il nous purifiera de toute injustice. 1er épître de Jean verset chapitre 1 verset 9, ainsi que Jacques chapitre 5 verset 16. Je répète parce que j'ai peut-être mal exprimé. Donc, il nous remettra les péchés et il nous purifiera de toute injustice. C'est écrit et confirmé dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, ainsi que dans Jacques, chapitre 5, verset 16. Troisièmement, nous avons la restitution. Et oui, nous devons si possible restituer à ceux auxquels nous avons nui, que nous avons fait du tort. Là, nous avons des indications bibliques intéressantes, telles que Exode, chapitre 22, versets 1 à 15, Saint Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 26, sans oublier l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 jusqu'au verset 10. Voyez-vous, chers amis, cela nous montre, en outre, la sincérité de notre repentir et de nos confessions. Ne confessez le mal qu'à ceux envers lesquels vous avez fait le mal. C'est clair. Il faut être très prudent. Oui, prudent avec les confessions publiques. Faites donc attention, parce que une confession publique mal avisée peut être une source de grande souffrance par la suite. Demandez à Dieu si vous devez ou non confesser quelque chose de mal aux autres. Mais attention, souvenez-vous que certains péchés ne doivent être confessés que à Dieu. Vous l'avez bien compris. Et quatrièmement, pardonner aux autres. Si nous ne pardonnons pas à autrui, jamais Dieu ne nous pardonnera. Et non. Notez là, Saint Matthieu chapitre 6, versets 12 à 15, ainsi que chapitre 18, versets 23 à 25. Voyez-vous, si vous ne savez pas si un péché existe ou non dans votre vie, eh bien, priez la prière du psaume 139, versets 23 et 24, et attendez la réponse. C'est l'Esprit Saint qui œuvre pour vous convaincre du péché, et il le fera si vous le lui demandez. Notez bien que Dieu donne la conviction spécifique de l'endroit où se trouve le péché et il vous indique précisément où il se situe. Le diable apporte le vide, il apporte la condamnation et la dépression, même s'il n'y a pas de péché. Donc confessez et avouez tous les péchés afin de ne donner absolument aucune opportunité au diable de pouvoir pénétrer. Éphésiens chapitre 4 verset 27 ainsi que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22. Voyez-vous, la conviction du péché par Dieu requiert la confession. La condamnation du diable nécessite la délivrance. Il y a donc une énorme différence entre les deux. Je répète, la conviction du péché par Dieu requiert la confession. La condamnation du diable nécessite la délivrance. Il y a donc une énorme différence entre les deux. Si vous n'êtes pas certain d'être sous la conviction divine ou sous la condamnation démoniaque, posez-vous cette question. Suis-je particulièrement convaincu d'un péché duquel je ne me suis pas repenti et que je n'ai pas confessé à Dieu? Si la réponse est oui, alors confessez-le à Dieu et demandez-lui de vous pardonner. Si la réponse est non, alors, s'il vous plaît, résistez au diable et ordonnez-lui de sortir, de quitter. Jacques, chapitre 4, verset 7. La parole de Dieu renferme certaines promesses qui sont vraiment merveilleuses à propos de ce qui arrive lorsque Dieu pardonne. Je vais vous donner 7 exemples. Premièrement, il n'y a plus de condamnation. Le diable ne peut condamner que lorsque il existe des raisons de condamner. Romains chapitre 8, verset 1 et verset 14. Deuxièmement, les péchés sont foulés sous les pieds de Dieu. Michée chapitre 7, verset 19. Troisièmement, les péchés sont jetés carrément dans les profondeurs de l'océan. Ça, c'est merveilleux. Michée, chapitre 7, verset 19. En outre, il n'y a aucun repêchage. Ne ramenez pas des péchés déjà pardonnés et ne laissez pas le diable de les repêcher pour vous. Absolument interdit. Quatrièmement, les péchés sont ôtés d'un bout à l'autre. Psaume 103, versets 10 à 12. Cinquièmement, les péchés sont pardonnés et purifiés de toute injustice. 1er épître de Jean, chapitre 1, versets 7 et 9. Sixièmement, les péchés sont jetés carrément derrière Dieu. Isaïe, chapitre 38, verset 17. Et septièmement, les péchés sont oubliés à jamais. Ou, s'il vous plaît, chers amis, tournez la page. Jérémie, chapitre 31, verset 34. Donc, ils sont pardonnés. Et ils sont quoi? Ils sont oubliés. Alléluia. Là, vous pouvez aussi noter Colossiens chapitre 2, verset 13. Satan est donc vaincu, et Christ, de ce fait, est vainqueur, car son sang a prévalu sur nous. Louons donc le Seigneur. Il y a deux grands psaumes de confession et de pardon. Ce sont les psaumes 51 et 103. Lisez-les lentement et méditez sur eux. Faites-en votre prière personnelle pour un Père aimant et qui pardonne. Car nous avons un Père qui est capable de nous pardonner. Chers amis, il y a également la prière pour guérir les mémoires. Et remets-nous de nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Mais si vous ne remettez pas aux hommes leurs fautes, alors votre Père céleste non plus ne vous remettra pas vos fautes. Saint Matthieu chapitre 6, versets 12 à 15, c'est une chose de demander à Dieu de nous pardonner. Mais c'est une toute autre affaire de vraiment pardonner aux autres. Je répète, c'est une chose de demander à Dieu de nous pardonner. Mais c'est encore une toute autre affaire de vraiment pardonner aux autres. C'est particulièrement vrai lorsque des gens nous ont profondément blessés et que nous nous sentons incapables d'oublier et de pardonner. Qu'ils soient fautifs ou non, une grande amertume les habite et cela mène à un esprit non pardonné et même ça peut mener au cancer. Et cela peut provoquer une sérieuse perturbation dans la maturation spirituelle. Hébreux chapitre 12 verset 15. Le pardon et la délivrance sont essentiels pour celui qui désire mener une vie normale, remplie d'Esprit Saint et connaître la joie du Seigneur. Dieu veut que nous soyons entiers, entiers dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Saint Marc, chapitre 5, verset 34. Dieu peut ainsi guérir nos émotions, nos corps et nos esprits, de même que nous guérir spirituellement. Comment une personne peut-elle, chers amis, être libérée? Eh bien, je vais vous donner sept exemples, ou si vous voulez, sept conseils à ce sujet-là. Premièrement, nous devons reconnaître que l'amertume, c'est un esprit non pardonné. Un esprit non pardonné, c'est mauvais. Et ça procurera des blessures qui sont non oubliées. Tout cela est un péché. Donc, priez le pardon de Dieu, même si vous êtes dans votre droit, oui, pour ce qui est arrivé. Priez afin que Dieu purifie votre esprit et qu'il guérisse votre mémoire. Deuxièmement, priez pour et recevez tout par la foi, donc par la foi un esprit renouvelé. Je répète, priez pour recevoir par la foi un esprit renouvelé. Ne vous conformez pas à ce monde ici, mais transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable à Dieu, selon Romains chapitre 12, verset 2. Voyez aussi et notez Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24. Troisième moment. Refusez de vous enfermer dans le passé. Si Dieu vous a pardonné ainsi que d'autres personnes, à d'autres personnes, alors vous devez lui pardonner et vous pardonner également aussi. Il est absolument indispensable que vous pardonniez aux autres, bien entendu, et que vous soyez libérés de toute amertume. Voyez-vous, ça c'est important. Si possible, allez voir la personne qui est concernée et mettez les choses au clair avec elle, selon Saint Matthieu chapitre 5, versets 23 à 26, hein, ainsi qu'au chapitre 18, versets 15 à 17. Voyez-vous, surtout, je crois, il faut nous réconcilier. Donc, réconciliez-vous les uns les autres. On avait dit à une adolescente, que son père était mort, et ceci lorsqu'elle était un bébé. Or, elle venant de découvrir plus tard qu'en réalité elle était illégitime, elle a crié vers Dieu, « Ô Seigneur, je pardonne à ma mère de m'avoir trompé pendant tellement d'années. Où que ce soit que mon père se trouve, eh bien je veux que tu lui dises que je l'aime et que je lui pardonne. » Voilà ce que veut dire le vrai pardon. Voilà ce que veut dire la guérison totale. Quatrièmement, si nécessaire, lorsque vous vous sentez incapable de pardonner vraiment et d'aimer quelqu'un, alors priez pour que l'amour divin soit sur cette personne et demandez à Dieu de vous remplir de son amour pour eux et de les bénir. Priez pour eux et demandez à Dieu le meilleur pour eux. Aimez-les en et par Jésus-Christ. Oui, lui qui vous a aimé le premier, alors que nous étions, rappelez-vous, des pécheurs. Romains 5, verset 8. Cinquième moment. Si les souvenirs reviennent, alors refusez de vous y complaire. Demandez à Dieu de les éloigner. Appliquez Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Occupez votre esprit à autre chose. Chantez des louanges à Dieu. Par exemple, ça sera même excellent. Demandez à Dieu de guérir une mémoire qui est blessée. Eh bien, cela ne signifie pas forcément ou automatiquement l'effacement ou l'oubli total, mais cela nous amène à la délivrance de la peur, de l'angoisse, de la culpabilité, de la haine, et beaucoup plus, qui vont accompagner tous ces souvenirs. Demandons donc à Dieu de guérir toutes ces mémoires, ces blessures dans la mémoire. Sixièmement, souvenez-vous de Romains chapitre 8, versets 1 à 6, où il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Christ t'a libéré, elle t'a libéré du péché et de la mort. Ne nous conduisons pas selon la chair, mais selon l'Esprit Saint. » Et septièmement, il peut parfois être désirable, voire nécessaire même, que quelqu'un d'autre prie avec nous, et avec le ministère de l'imposition des mains, pourquoi pas, bien que cela ne soit pas toujours essentiel, mais cela peut être une véritable bénédiction et aider beaucoup de gens, particulièrement ceux qui ont laissé la rancune, voyez-vous, la rancune, hein, s'installer en eux et qui sont incapables de se libérer d'eux-mêmes. Hébreux 12, verset 15. Le pire résultat d'un refus de pardonner autrui, c'est que finalement, c'est nous qui souffrons le plus. Je répète, le pire résultat d'un refus de pardonner à autrui, c'est que finalement, c'est nous qui souffrons le plus. Mais sachez que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus, selon Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. Il arrive que le mot « main » symbolise le pouvoir. 1 Samuel chapitre 5, versets 6 et 7. Et ceci en particulier lorsque l'expression « main droite » est employée pour indiquer la force et le pouvoir, voire l'omnipotence en référence à Dieu. Exode 15, verset 6, ainsi que le psaume chapitre 20, verset 6, et je crois aussi le psaume chapitre 44, verset 3. Donc, l'imposition des mains est nécessaire dans les cas suivants. Voyons cela. Premièrement, pour bénir. Exemple, Israël bénissant ses fils Éphraïm et Manassé. Genèse 48, versets 14 à 20. Jésus-Christ a posé les mains et il a béni de jeunes enfants. Saint Matthieu 19, versets 13 à 15. Dieu a aussi posé ses mains sur nos vies pour les bénir et si besoin pour le jugement. Psaume 139, verset 5. Ézéchiel chapitre 39, verset 21. Sans oublier Apocalypse chapitre 1, verset 17. Deuxièmement, comment tout cela identifier? Ou disons comme identification. Eh bien, comme identification, les mains, ils étaient posés sur la tête de l'animal qui était prêt à être sacrifié, l'identifiant ainsi au péché du peuple. Lévitique chapitre 3, verset... Non, chapitre 3 et le chapitre 4. Et donc, nous voyons qu'en imposant les mains, nous nous identifions à celui pour lequel nous allons prier et montrons ainsi notre unité dans notre désir de voir la prière exaucée. Saint Matthieu 18, versets 18 à 23. Je répète parce que c'est important. Nous voyons donc qu'en imposant les mains, nous nous identifions à celui ou à celle pour lequel ou laquelle nous prions et nous montrons ainsi notre unité dans notre désir de voir la prière être exaucée, selon Saint Matthieu, chapitre 18, versets 18 à 23. Troisièmement, dans l'ordination, dans la consécration ou dans la délégation. Moïse, il a posé les mains sur Josué en ordination, et ceci afin qu'il continue dans l'autorité de Moïse après sa mort. Nombre, chapitre 27, versets 18 à 23. Les mains étaient aussi imposées sur les Lévites lors de leur consécration pour leur ministère de la prière. Nombre, chapitre 8, verset 10. L'Église primitive adoptait également cette attitude pour la désignation des diacres. Souvenez-vous, Actes chapitre 6, verset 6, ainsi que pour aussi désigner les apôtres. Actes chapitre 13, verset 3. Quatrièmement, évidemment pour guérir, l'imposition des mains. Les mains était souvent posé sur le peuple pour guérir. Et c'est particulièrement vrai pour le ministère de Jésus-Christ, car en fait, le peuple venait vers Jésus-Christ et lui demandait de poser ses mains sur les malades, selon Matthieu chapitre 9, verset 18, et selon Luc chapitre 4, verset 40. Vous avez bien compris. Tout le peuple venait vers Jésus-Christ et ils lui demandèrent de poser ses mains sur les malades. Ça, c'est une réalité. Et Jésus a dit que ceux qui croyaient entendraient, non pas entendraient, mais qu'ils étendraient leurs mains. Je répète donc que Jésus-Christ a dit que ceux qui croient pouvaient étendre leurs mains sur les malades et que ceux-ci seraient guéris. Avons-nous bien compris cela? Saint Marc 16, versets 17 à 20. Et l'Église primitive agissait ainsi, et les gens étaient guéris. Acte 28, verset 8. Cinquièmement, également pour le baptême avec l'Esprit Saint, car dans certains cas, pas toujours, les mains étaient posées sur les gens qui priaient afin qu'ils puissent être remplis de l'Esprit Saint. On a un exemple dans Actes, chapitre 8, versets 14 à 19, ainsi que le chapitre 9, verset 17, et le chapitre 19, verset 6. Sixièmement, l'imposition des mains était aussi pour transmettre les dons spirituels. Josué a reçu un esprit de sagesse, suite à quoi? Suite à l'imposition des mains de Moïse, dans Deutéronome chapitre 34, verset 9. Timothée, il a reçu un don de l'Esprit Saint lorsque l'apôtre Paul et d'autres prêtres ont posé les mains sur lui. 1 Timothée chapitre 1, verset 18, ainsi que 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Et septièmement, l'imposition des mains est aussi pour la délivrance. On trouve peu, sinon aucune base scripturaire d'imposition des mains lors de la prière pour la délivrance. D'accord. Il n'existe donc aucun exemple biblique. Et lorsque l'on impose les mains pour guérir, la délivrance vient. Pourquoi? Parce que les démons sont expulsés. Et ceci par la parole. Voyez par exemple Saint Matthieu chapitre 8 verset 16, ainsi que Luc chapitre 4 verset 40, sans oublier Actes chapitre 16 verset 16 à 18. Donc, nous détenons l'autorité, vous l'avez compris, d'expulser les esprits démoniaques et même de guérir, et l'assurance, nous la recevons, que rien de cette nature va nous blesser. Saint Matthieu chapitre 10 verset 1 et Saint Luc chapitre 10 verset 19. Mais nous devons être en parfaite relation, évidemment, avec le Seigneur Jésus-Christ. Acte 19 verset 13 à 16. Très important. Les mains doivent évidemment être propres et saintes. Psaume 24, versets 3 à 5, ainsi que 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Il ne faut jamais poser brusquement ou à la légère les mains sur quelqu'un, selon 1 Timothée chapitre 5, verset 22. C'est-à-dire, jamais faire les choses à la légère, sans précipitation, en particulier lors d'une ordination. L'acte d'imposer les mains est une doctrine élémentaire, c'est une doctrine de base, selon Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Par conséquent, tous les chrétiens doivent connaître sa signification et le pratiquer lorsque le Seigneur l'indique. En imposant les mains, nous agissons comme des canaux par lesquels Dieu répand des bénédictions sur autrui. Et c'est pourquoi ceux qui imposent les mains doivent se préparer par la prière, parfois même par le jeûne, et rechercher la directive de Dieu. Ils doivent d'abord s'assurer, avant d'imposer les mains, qu'il n'y a aucun péché qui n'ait pas pardonné dans leur vie. C'est important cela. Chers amis, il y a également oindre, on peut oindre par l'huile dans la prière. Cela doit également être fait très sérieusement. Il arrive parfois au cours de la prière pour une personne que les participants soient oints d'huile et que les mains soient posées sur eux. Pourquoi cela ? Eh bien, voilà la réponse. L'huile est un genre d'esprit saint et un symbole du pouvoir de guérison. Donc, l'onction d'huile est associée à deux actes principaux. L'ordination ou la consécration pour le ministère spirituel et la prière pour la guérison. Notez Actes chapitre 10, verset 38. Premièrement, les rois étaient oints. Les rois étaient oints d'huile lors de leur ordination. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13. Deuxièmement, les prêtres étaient oints. Les prêtres étaient consacrés par une onction d'huile. Lévitique chapitre 8, verset 12. Troisièmement, l'ordination pour le ministère spirituel. La particularité du ministère spirituel était marquée par l'onction d'huile. Exode chapitre 28, verset 41. Et quatrièmement, dans la prière pour la guérison, les gens prêts à mourir appellent les prêtres desquels ils reçoivent une onction d'huile et prient pour le malade. Jacques chapitre 5 verset 14. Le bon samaritain, il a utilisé le vin et l'huile pour guérir la femme qui était blessée. Dans Luc chapitre 10 verset 34, il est dit dans le psaume 133, donc 133 verset 2, que l'unité est comme l'huile précieuse. Elle vient de l'Esprit Saint et apporte la guérison spirituelle. Psaume 45, verset 7, et Isaïe 61, verset 3, nous parlent d'une huile d'allégresse. L'huile étant le symbole de la joie, l'huile et le vin sont également des symboles de prospérité et de bénédiction, selon Joël, chapitre 1, verset 10. Et sans oublier Apocalypse, chapitre 6, verset 6. Deux des miracles de la Bible comportent l'huile créatrice, selon 1 Roi, chapitre 17, verset 8 à 16. Éloignez les pensées vagabondes. Cela est un des plus grands problèmes de notre siècle. Oui, tous les chrétiens ont un jour ou l'autre ce problème très répandu, bien qu'ils désirent prier, eh bien leurs pensées vagabondent. Ils vagabondent de ci, de là et se posent sur d'autres sujets. Parfois, on réalise subitement que l'on est supposé de prier et qu'en fait, on pense à toute autre chose de complètement différent. Comment alors surmonter ce problème des pensées vagabondes? Eh bien, chers amis, voici quelques suggestions. Premièrement, prier avec d'autres, car lorsque c'est possible et pratique, prier avec d'autres personnes. Généralement, vous trouverez cela plus facile et vous aurez beaucoup plus de facilité à vous concentrer dans la prière en compagnie de quelques autres personnes ou dans un groupe. Saint Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Deuxièmement, prier tout haut ou murmurer en restant attentif à ce que vous dites. Si vous priez tout haut ou doucement, s'il est incommode de prier tout haut, et si vous écoutez ce que vous dites, alors il vous sera beaucoup plus facile de vous concentrer sur vos pensées ou sur un sujet de votre prière. Troisièmement, Soumettez vos pensées à Dieu. Oui, offrez vos pensées, offrez vos désirs et votre esprit au Seigneur. Laissez-le inspirer vos pensées et votre prière. Galates chapitre 2 verset 20 ainsi que Romains chapitre 12 verset 1 et 2. Résistez au diable, car le diable ne veut pas, il ne veut jamais que vous priez, et il fera tout pour vous distraire. Donc, résistez-lui, selon Jacques, chapitre 4, verset 7. Quatrièmement, priez pour les pensées qui vous distraient. S'il vous arrive de retomber dans des pensées autres que celles de votre prière, alors ces pensées vous préoccupent, beaucoup même. Priez donc pour les laisser vers le Seigneur. Cinquièmement, priez seul, et ceci parfois même les yeux fermés, dans un lieu surtout tranquille. Si vous priez seul, essayez de vous occuper à autre chose que ce que vous pensez en réalité. Je voudrais vous le dire encore une fois, si vous priez seul, il faut absolument vous couper de toute autre chose, c'est cela que je devais dire, de vous couper carrément de tout ce qui est autour de vous et tout ce qui pourrait vous distraire. Oui, c'est important, surtout qu'il n'y ait pas un téléphone tout près. Sixièmement, faites souvent des courtes prières. Voyez-vous, s'il vous est trop difficile de prier longuement ou de prier sans relâche, très peu de gens sont capables de se concentrer plus d'une demi-heure. Donc soyez réalistes. N'essayez pas de prier aussi longtemps au risque de vous décourager et de vous condamner. Par exemple, le Notre Père, récitez lentement, posément et avec révérence. Ça dure pas tout à fait une minute. Septièmement, alternez prière et chant. Huitièmement, demandez à Dieu de vous aider à prier tout le temps en esprit. Pourquoi pas? Selon Éphésiens, chapitre 6, verset 18, demandez au Seigneur de venir au secours de vos faibles prières. Selon Romains, chapitre 8, verset 26. Neuvièmement, notez, c'est pas défendu, notez vos demandes et les réponses. Tenez un journal de bord. Je dis bien, ce n'est pas absolument indispensable et ce n'est surtout pas défendu. Donc vous pouvez le faire. Et dixièmement, la prière nécessite de la discipline. Elle nécessite beaucoup de discipline et beaucoup de concentration. Nous devons parfois faire un effort particulier pour prier et pour rester concentré sur notre prière. La discipline et l'effort indispensable. Et cela, voyez-vous, nous aide, car la chair, sans oublier le diable, vont jamais nous faciliter la tâche. C'est beaucoup plus facile lorsque l'on connaît, par la révélation de l'Esprit-Saint, la personne à laquelle nous adressons nos prières. Voyez-vous, dès que l'on parvient à connaître Dieu personnellement et à l'aimer, il est beaucoup plus facile de lui parler. Après tout, c'est un plaisir de converser avec un Père avisé, aimant et compréhensif. Selon Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, nous allons, chers amis, terminer avec la question « Combien de temps faut-il vraiment prier ?» Voyez-vous, le temps passé en prière n'est pas de première importance. On ne devient pas obligatoirement un super spirituel, tout simplement en pensant que nous devons faire des longues heures de prière ou même des nuits entières de prière. Si Dieu vous pousse à agir ainsi, vous devez, par contre, lui obéir, c'est clair. Cependant, ni notre spiritualité, ni l'efficacité de notre prière ne se mesurent uniquement par le temps que nous avons passé en prière. Les critères suivants ont autant d'importance que la durée de la prière. Premièrement, il faut la sincérité. Nos prières doivent être absolument sincères. Il faut non seulement adorer Dieu en esprit et en vérité, la prière qui est dite sans sincérité, ça, c'est qu'une perte de temps. Deuxièmement, l'absence d'hypocrisie. La prière est hypocrite. Elle est carrément une insulte à Dieu, selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 8. Troisièmement, il y a la ferveur. Notre prière doit être fervente et très sérieuse, et de tout notre cœur, et désireuse vraiment de vouloir être une prière qui va être acceptée. Quatrièmement, il y faut absolument l'absence du péché. Voyez-vous, si le péché n'a pas été confessé, ce qui est grave, si l'on ne s'en est pas repenti, c'est également très grave, alors il est inutile, absolument inutile, de s'évertuer à vouloir prier. Parce que voyez-vous, Dieu ne nous écoutera pas avant que cette condition ait été remplie, que ça ait été fait. Donc, on a bien compris, nous devons nous repentir, ça c'est important, et surtout pardonner. Cinquièmement, il y a la foi. Il faut prier avec beaucoup de foi, en croyant que Dieu nous écoutera et qu'il répondra à nos requêtes, selon saint Matthieu 21, verset 22, ainsi que la première épître de Jean, chapitre 5, verset 15, 14 et 15. Eh bien, chers amis, nous pouvons maintenant, si vous le voulez bien, terminer tout simplement par la prière. Seigneur Jésus-Christ, après toi seul soupire notre âme, et c'est toi seul que réclame notre être. Oui, toi seul peux nous octroyer des dons réellement salutaires, des valeurs solides et des biens qui ne s'évanouissent pas. Nous venons à toi pour demander, donne-nous ce dont nous avons vraiment besoin. Grâce te soit rendue, ô Dieu, pour avoir semé dans nos cœurs le grain de ta sainte parole. Donne-lui la croissance et la fécondité à ta sainte parole. Et garde-nous de l'ennemi pour qu'il ne mêle pas l'ivraie à ta sainte semence. Et préserve-nous de toute négligence frivole, de toute fausse assurance. Et ceci afin que le fruit bien partagé, cultivé avec prière et respect, mûrisse en son temps. Amen. Et chers amis, merci encore pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Et j'espère que vous continuerez d'écouter la suite qui va durer encore un bon moment, uniquement sur le plus important des sujets, qui est la prière. À bientôt à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.